أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، ليس فقط للمسلمين. C'est une rahma pour tout le monde. Clémence pour tout le monde. الله عز وجل dit dans le Coran, pas seulement pour les musulmans. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا محبته، اللهم ألهمنا سيرته، اللهم ألهمنا يا أرحم الراحمين اتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. Juste une petite remarque de ce qu'a dit le frère Mohamed. Parler du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est une très très grande bénédiction. Ça sera pas, j'ai pas osé interrompre le frère d'écouter. Ça c'est juste la généalogie du prophète. Imaginez, on parle de sa naissance, imaginez, on parle de son enfance, imaginez, on parle de ses miracles, imaginez, on parle de son comportement, que ce soit dans les batailles, que ce soit avec les kuffars, que ce soit les pires de ses ennemis. Sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Muhammadun basharun la kal bashar, Muhammadun jawharatun bayna al-hajar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu dis le diamant c'est une pierre, mais ce n'est pas comme toutes les pierres. Est-ce que le diamant, c'est comme toutes les pierres? On trouve partout les diamants? Non. Alayhi salatu salam. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que je suis né des purs, même si on prend ceux qui ont pris le sens de la pureté dans le sens qu'il n'est pas né en dehors du mariage légal, qu'est-ce qui est prioritaire? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est-à-dire qu'annahu yaftakhir bi nasabi, c'est comme s'il dit voilà, regardez, je suis né de mariage légal. Comment est-ce qu'il peut dire voilà, je suis né d'un mariage légal? Or dans ces mariages, il y a des gens qui sont mouchriquins. Vous avez compris? C'est-à-dire par priorité, indirectement, ce sont des mouahidins, ce ne sont pas des mouchriquins. Et dans le tafsir, la majorité, comme a dit le frère, on a la taqalluba wajhika fi sajidin. La majorité des mufassirines, ils ont dit, ça concerne l'arbre généalogique jusqu'à Sidna Adam, que ce sont tous des mouhidines. Pour notre cours, Inch'Allah, on continue. Je ne sais pas si le sixième cours ou la... Okay, là, c'est le sixième. Oui. Donc on a parlé dans le cours précédent de l'attribut de la non-ressemblance. Donc pour ceux qui n'ont pas assisté, les cours de Tawhid qu'on a donné dans le sixième cours, on en a parlé de l'importance de cette science, etc. On a commencé à parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, on a aussi dit que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms sont illimités. On a apporté les arguments, etc. Mais ceux qui sont répétés dans le Coran et dans la Sunna authentique, les savants, ils ont essayé de les regrouper. On a dit qu'il y avait 13 attributs. J'ai donné dans un des polycopies, peut-être que je ne sais pas si vous les aviez ou bien ça sera distribué. Donc on est arrivé à quel numéro? C'était la non-ressemblance. Oui, le numéro, je vous dis. 6. On a dit, aujourd'hui c'est le 7.
Non.
Aujourd'hui c'est le 6, d'accord. Taïb. Donc sixièmement, l'unicité. Al-Wahdaniya. Donc on a parlé sur la non-ressemblance la dernière fois. Et on a ramené des textes. Quand on dit des textes, que ce soit les versets coraniques ou bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Et on a donné aussi des arguments prouvés par la raison, non seulement la logique, hein, parce que la logique, comme on a expliqué, c'est une partie de la raison. Al-mantiqu wa ba'd al-aqli. Le Coran n'est pas venu pour contredire la raison saine, comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, muwafaqat sarih al-ma'qul li sahih al-manqul, hein, dans un livre très 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 important. Donc en ce qui concerne l'attribut d'aujourd'hui, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahdaniyya. Déjà cette science, elle se nomme ilm al-tawhid, allez c'est comme ça, on dit ilm al-tawhid. Quand vous entendez parler de ilm al-tawhid, science de tawhid, ou bien de usul al-din, ou bien de l'aqida, tout ça c'est des synonymes. Ou bien même, si quelques savants ils disaient « ilm al-kalam », comme c'est la première question qui a été confrontée entre les sunnites et quelques groupes égarés, c'était la question de la parole d'Allah Azzawajal, est-elle créée ou non créée? Donc ils ont dit « cette science, on va l'appeler ilm al-kalam ». Donc tout ça, ça parle de la aqida. Il y a beaucoup de savants, ils ont donné le nom de cette science « ilm al-tawhid » parce que l'attribut de l'unicité d'Allah Azzawajal, qui est opposé au shirk, hein, ou le français, associer quelque chose à Allah Azzawajal, donc c'était quelque chose de fondamental. Et la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et tous les prophètes sont venus pour parler de cet attribut qui est le plus important, car, comme on a vu, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis l'époque de Sidna Adam, envoie un prophète à des communautés, ou bien à des tribus, ou bien à des peuples, à un moment donné, ils suivent ce prophète, ils suivent ce qu'il leur apprend de l'unicité d'Allah Azzawajal, mais à un moment donné, Shaitan commence à leur souffler dans leur tête, il commence à changer selon leurs désirs et selon leurs plaisirs, et selon ce qu'il leur miroite. « Wazayyana lahum ash-shaytan » C'est-à-dire qu'il leur montre quelque chose qu'ils vont le voir très très beau, etc. Comme leur dire, voilà, pourquoi vous ne faites pas une petite statue comme ça, vous rappelez de cette personne, etc. Une, deux générations, ensuite ils vont commencer à adorer cette statue. D'accord? Donc tous les prophètes, ils sont venus pour dire « La ilaha illallah ». Il n'y a de Dieu que Allah. On rappelle que c'est juste de dire il n'y a de Dieu que Dieu. C'est juste, vous allez trouver ça, on le voit dans beaucoup de livres. Mais il est très important de rappeler aussi que dire il n'y a de Dieu que Allah, c'est-à-dire le mot Allah, on ne le trouve nulle part que chez les musulmans. Parce que tu vas voir un chrétien, un juif, tu dis il n'y a de Dieu que Dieu, il va dire oui, je suis d'accord, il n'y a de Dieu que Dieu. Mais de quel Dieu parle-t-on? Parle-t-on de Jésus, fils de Marie, fils de Dieu, comme disent les chrétiens, ou bien d'un autre, de Ozaïr, ou bien d'une autre divinité, ou bien de la lumière, comme disent les bouddhistes, ou bien du le Yang et le Yun. Nous, on parle d'un Ilah, d'un Dieu, Allah, dont les attributs sont cités et rapportés dans le Coran et dans la Sunna authentique. Taïb. Je vais démarrer. Donc, tous les attributs, comme on a dit, ce sont des attributs qui sont rattachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan wa azalan. C'est-à-dire, c'est pas qu'il était multiple, ensuite il est venu et il est devenu unique. Il restera, il est toujours l'unique. Unique en quoi? Dans son essence, fi dhatihi, fi sifatihi wa fi af'alihi. Wahidun fi dhatihi. Il est unique dans son essence, il est unique dans ses attributs, il est unique dans ses actes. C'est-à-dire que personne, aucune créature, aucune chose, hormis Allah Azzawajal, ne peut avoir un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut avoir l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut avoir un des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'acte de la créature, de créer la création, etc. Tous les actes d'Allah Azzawajal, ni sa science, aucune personne, voilà, yuhituna bi shay'in min ilmihi, ils ne peuvent avoir aucune science, sauf s'il les autorise à avoir. D'accord? D'ailleurs, Allah Azzawajal nous a lancé un défi dans le Coran plusieurs fois. Entre autres, yas'alunaka 'an ar-ruh, qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. On te pose la question sur l'âme. Dis-leur, cette question, c'est une question qui concerne Allah Azzawajal. Ne vous mêlez pas de ça, votre science, elle est très très limitée, elle est minime. D'accord? Aujourd'hui, la question qui se pose, toutes les sciences qu'on voit aujourd'hui, toutes les sciences, toutes disciplines confondues, mathématiques, physique, astronomie, sharia, tout ce qu'on découvre dans cet univers, dans les laboratoires, dans les recherches, est-ce que ces grands spécialistes qui travaillent jour et nuit dans tous les laboratoires du monde, est-ce que c'est eux qui créent, ou bien est-ce qu'eux, ils découvrent, ils trouvent ce qu'il existe déjà? Celui qui a trouvé l'atome, est-ce que c'est lui qui l'a créé, ou bien elle existait, il n'a fait que la chercher et la trouver? Ainsi que toutes les théories, ainsi qui sont réelles, ainsi que par exemple les étoiles. Tel laboratoire, ils ont découvert avec un grand télescope, ils ont trouvé telle étoile. L'étoile, elle existait, c'est pas eux qui l'ont créée. Donc toute ces sciences là, c'est une poussière de ça fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, toutes nos sciences, c'est une partie toute mini. C'est comme si tu prends un océan, l'océan, et tu prends une aiguille, Tu la rends, tu t'assors, c'est cette goutte que l'on tient vis-à-vis de la science d'Allah Azzawajal. Les kofars de Quraysh sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, tu nous parles de ton Dieu, etc. Eux, ils ont l'habitude, comme on va voir, et c'est très important ce que l'a dit le frère tout à l'heure, de revenir aux spécialistes de l'exégèse, et que ce n'est pas nous qui allons comprendre. C'est bien de lire le Coran, Rida, surtout pour ceux qui comprennent l'arabe, même ceux qui lisent en français, c'est bien, mais faites très attention dans les traductions. Traduire, c'est trahir, comme on dit. Et il est préférable de voir ce que les musulmans ont dit et de comparer si on a des traductions en français, parce que des fois, ça dérape et des fois, on comprend mal, même si la personne elle avait une bonne intention, mais on comprend mal. Donc les kofars sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parle-nous de ton Dieu. تكلمنا عن إلهك هل هو من فضة هل هو من ذهب dis-nous ton Dieu, tu parles de ton Dieu, est-il fait d'argent, est-il fait d'or, hein? Parce que eux, ils ont l'habitude de voir des statues, ils ont 365, 366 statues, et chaque tribu, chaque saison, ils sortent une tribu, ça est devenu même commercial, hein, pour l'adorer, pour lui donner de l'argent, etc. etc. Allah Azza wa Jal leur a répondu par un verset, surat al-Ikhlas, qui représente le tiers du Coran. Bismillah ar-Rahim, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ. Dis-leur qu'Allah Azzawajal est l'unique. Lam yalid n'a pas été engendré. Il n'a pas engendré. Walam yulad, il n'a pas été engendré. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad, c'est-à-dire l'omnipotent, c'est-à-dire que toute chose a besoin de lui et il n'a besoin d'aucune chose. C'est ça, samad. C'est-à-dire, nous, même si tu es un roi, tu as besoin de quelque chose. Hein? Tu es malade, tu as besoin de médecin. Hein? Même si tu es, comme il dit, multaj ou ihtaj. C'est-à-dire, même celui qui a une couronne, il a besoin. C'est un proverbe arabe. C'est-à-dire, toute chose, hormis Allah Azza wa Jal, a besoin d'autre chose. Ne serait-ce que de l'eau. On dit, alna min al-ma, ikulla shayin hay. Toute chose, pour qu'elle soit vivante, elle a besoin de l'eau, pour qu'elle soit vivante. Vous avez vu quelque chose de vivant qui n'a pas besoin d'eau? Ça n'existe pas. Alors regardez Allah Azza wa Jal, quand il nous dit jeûner, ça c'est déjà un sens pour découvrir déjà notre faiblesse. Hein? À la fin de la journée, on est fatigué, épuisé, etc. Pour dire que, alhamdulillah, mashallah, Allah Azza wa Jal nous donne de ses biens, de sa rahma. Donc, le prophète, alayhi salam, la révélation est venue. Qul hu, parle-leur de ce Dieu, de ce ilah. Qul hu Allahu ahad, il est le Dieu l'unique. Allahu Samad. Et les Arabes de Quraysh comprenaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Parce qu'il leur parlait leur langage. Hein? Ils ont pas besoin de chercher l'imam al-Tabari ou bien Ibn Kathir pour venir écouter et leur expliquer. Des fois, attention, le Coran aussi, il est venu comme i'jaz, on dit i'jaz en français. C'est le... i'jaz. Défi. Ouais, il défie. C'est pas mu'jaza, mais i'jaz, c'est-à-dire le défi. Il a même défié les Arabes de l'époque. Bon, c'est les Arabes, ils étaient connus par... C'était des gens qui étaient très 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 forts, la maîtrise de la langue arabe. Si les Arabes de cette époque, c'était des gens très très forts dans la technologie, Allah Azzawajal va leur envoyer un prophète qui va leur montrer que leur technologie va... qui aura plus de technologie. C'est Sidna Moussa, la preuve. Hein, c'était des magiciens. Allah Azza wa Jalla a envoyé Sidna Moussa pour le prouver que la magie, c'est rien. Donc, le Coran est venu, il avait une puissance vraiment dans la langue arabe, que eux, des fois, ils lisent des textes, ils savaient que c'est la langue arabe, mais ils ne comprenaient pas les sens, car il y a des mots qui ont existé déjà dans 3-4 siècles avant eux, mais qui sont perdus, parce que la langue, comme vous le savez, il y a des mots qui meurent, il y a des mots qui reviennent, et Abou Bakr Siddiq déjà, il parlait du fait avec les compagnons déjà entre eux, ils se disent, ah, ce mot-là, quelqu'un le connaît, etc. Donc il y a même des mots perses qu'on trouve dans le Coran, etc., qui sont repris, hein, Istabraq, etc., qui sont repris par le Coran al-Karim. Donc, il était tellement fort le Coran, point de vue linguistique, qu'ils sont restés, ils ont oublié tous leurs poètes, les grands poètes qui viennent, qui disent Mu'allaqat, ils avaient des grands poètes, même le prophète, il avait un prophète ou non? Il avait un poète ou non? Il avait un poète qui s'appelait Hassan ibn Thabit. C'était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait à ceux qui attaquaient le prophète alayhi wa sallam, Hassan ibn Thabit. Ils attaquaient le prophète, c'est des gens qui veulent, ils marchaient dans les souks. Ils disaient, oh, ce prophète machin, ça, c'est Hassan ibn Thabit. Il leur répondait par des poèmes pour défendre, pour montrer la valeur du prophète alayhi wa sallam. Donc, dans le hadith, il est dit qu'elle a la valeur du tiers du Coran. Pourquoi? Parce que comme on a dit dans le hadith, Sidna Jibril, alayhi salam, quand il est venu apprendre aux sahaba, déjà la façon de poser les questions, déjà qu'il faut poser les questions pour apprendre, ensuite, quels sont les fondements de cette religion, qui sont trois grands chapitres, pas les piliers de l'islam, mais les trois grands chapitres fondamentaux de cette religion, à savoir la croyance, la législation et l'éducation. Al-Iman, Al-Islam, ou Al-Ihsan. Donc quand il a parlé de... Non. Quand il a parlé de l'imam, il a dit l'imam de Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadari khayrihi wa sharrihi. Donc tous les prophètes sont venus pour parler de cette l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il aura dit que tous vos statues ne sont rien, hein, c'est vous qui les fabriquez. Sayyidina Ibrahim aussi, quand il a vu que tous ils étaient en train de construire leur statue, il y avait une grande statue qui est là, il a dit, bon, comment je vais convaincre ces gens-là? Il les a laissés, parce qu'il leur a parlé. Ibrahim, on a entendu parler qu'un jeune, hein, et toujours le mot fata en islam, c'est la jeunesse, et ce sont des jeunes croyants, c'est qui va pousser, inshallah, c'est toujours le mot jeune, fata, le futuwa, hein, la chevalerie, le futuwa, le mot fata, innahum fityatun amanu bi rabbihim, ce sont des jeunes qui ont cru Allah subhanahu wa ta'ala, tout le mot fata, c'est la chevalerie, c'est Allah azza wa jal, il encourage, hein, ces jeunes musulmans, jamais le mot fata n'est venu en sens péjoratif. Donc, Sidna Ibrahim, il a parlé à ces gens-là, il a vu que ces gens-là, quand il leur parlait, il leur parlait en utilisant la raison, parce que quelqu'un qui n'est pas croyant, tu ne vas pas lui citer un verset coranique, écoute, voilà, le verset dit qu'il n'est pas croyant, alors tu vas parler avec sa raison. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a laissés partir, il a détruit toutes les statues, hein, avec... un épface, marteau, on va dire. Il a laissé juste la grande statue, il l'y a accroché. Hein, le marteau, il l'a accroché à cette statue. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé toutes les statues détruites. Qui a détruit toutes nos statues? C'est Ibrahim. C'est logique. C'est le plus grand, là, la grande statue, elle a le marteau, c'est elle qui les a détruits. Il leur a dit, regardez, c'est lui qui a le marteau. Ensuite, ils lui ont dit, écoute, tu sais très bien qu'il ne parle pas. Il ne parle pas, il ne bouge pas. Il leur a dit, vous adorez quelqu'un qui ne parle pas? Et vous avez une qualité que lui, il ne l'a pas. Il ne réfléchit pas, il ne parle pas, il ne bouge pas. C'est vous qui le construisez. Mais réfléchissez un peu. Vous êtes en train d'adorer quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus faible que vous. Ensuite, ils ont commencé à faire des cassons à la rose. Mais tu sais que ces créatures ne parlent pas. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Et là, c'est Ibrahim, toujours, il utilise la raison avec eux. Il a, comme a parlé le frère Chaleur, il a aussi parlé de, quand il dit, il parlait du soleil, quand il se levait, etc., etc. Pourquoi vous n'adorez pas le soleil? Regardez, il est plus puissant pour les ramener à utiliser leur cervelle. C'est pas parce que lui, il croyait pour le ramener. Donc il leur a dit, regarde, il est grand, il est moins, si on le ramène la chaleur, hop, ensuite, il se couche. Donc il est faible, il part. L'obscurité le remplace, elle est plus forte que lui. Donc, pour les ramener à utiliser la raison, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, on va trouver beaucoup de versets dans le Al-Karim. Toute la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a passé à la Mecque, c'était une période pour parler du tawhid. Donc, toute la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait surtout du tawhid pour ancrer le tawhid, hein, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur des sahaba, et afin de parler de quelque chose de fondamental, parce qu'on ne peut pas, le prophète il ne peut pas encore commencer à parler des détails tant que le plus important n'est pas encore ancré, n'est pas même entendu et assimilé, même par les autres, parce que les autres, n'oubliez pas que quand ils entendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire des choses, eux ils ont des réunions, etc., ils vont parler avec les autres tribus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam profite de cela. C'est-à-dire sa parole, elle est entendue chez les autres, même chez les juifs, ils ont dit, ah tiens, c'est dans leurs écrits, voilà, le prophète du dernier des temps, il est venu, etc., etc. On peut trouver un autre verset au Coran al-Karim. قال تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Là, on va rentrer donc pour l'unicité d'Allah, il y a d'autres versets. S'il y avait d'autres divinités que Dieu dans les cieux et sur la terre, tout sera livré au chaos. Gloire à Dieu, Allah, maître du trône bien au-dessus de leur fiction abusive. Il a dit dans un autre verset, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَا يَصِفُونَ. Non, Allah ne s'est point donné d'enfant, il n'est point de divinité avec lui, car alors aucun des dieux ne s'emparerait de sa création et d'aucun en supplanterait d'autres dieux uniques dans sa grandeur et bien au-dessus de pareilles fabulations. Bon, il y a beaucoup de versets, hein. Beaucoup de versets, je vais me limiter à cela. Le Coran est plein de versets qui parlent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique dans son essence, il est l'unique dans ses attributs, il est l'unique dans ses actes. C'est-à-dire, ses actes, sa création. Quand il veut qu'une chose soit créée, il lui dit soit, et cette chose, elle soit. D'accord. Par contre, l'homme, il faudrait qu'il réfléchisse, il faudrait ceci, il faudrait cela, il faudrait qu'il pense. On est en train de parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous allez le remarquer, un par un. On ne peut pas mélanger, parler d'un attribut avant de parler d'un autre. Donc, vous remarquez, on a commencé par l'existence, etc. On en parlera si on aura le temps aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps, de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ilmullahi. Hein, comme j'ai parlé tout à l'heure, la prochaine fois on parlera de la puissance et de al-qudra wal-irada, comment on traduit, c'est-à-dire la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et il y a d'autres attributs, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on en parlera inchallah après. Mais aujourd'hui, l'unicité d'Allah, s'il y aura le temps, on parlera de la science. Pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, on a dit qu'il faut non seulement il faut ramener les textes, mais il faut ramener des arguments de la raison. Il y a ce qu'on appelle dans les spécialistes de tawhid, de la science de l'aqida, appelle at-tawarud wa at-tamanu'. At-tawarud wa at-tamanu'. C'est-à-dire qu'on va argumenter, comme on a prouvé dans l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de At-Tasalsul wa Dawr. Vous vous rappelez At-Tasalsul wa Dawr. S'il y avait un Dieu qui a créé, pourquoi Allah Azza wa Jal, personne ne l'a. Hein, quelqu'un vient poser la question, point de vue raison, hein, et qui a créé Dieu. On a donné les arguments de la raison qu'il ne peut pas y avoir un créateur d'un Dieu. Vous vous rappelez de ça? Donc, il y a deux théories pour cela, nos savants. Quand je dis théorie, c'est nos savants qui ont créé cette argumentation de la raison, bien que le Coran il le dit clairement. S'il y avait des dieux, la facette alpha, subhanallah. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres divinités que Dieu dans les cieux et sur la terre, tout serait livré au chaos. Et on va expliquer cela. S'il y avait, quand on nous pose la question qui a créé Dieu, on dit personne n'a créé Dieu. Parce que si on admet que Dieu a été créé, ce Dieu-là, on va nous aussi poser la question qui l'a créé, l'autre qui l'a créé, et c'est interminable. Or, le Dieu qui a créé cet univers, l'univers, on le voit, hein, cet enchaînement interminable n'a pas encore commencé. Comment, puisqu'il n'a pas encore commencé, la fin elle est là, l'univers il est là. Je sais pas, j'ai bien expliqué la dernière phrase, c'est juste un rappel. Hein. Bon, aujourd'hui pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qu'on appelle at-tawarud wa at-tamanu'. Il y a d'autres qui vont dire, j'ai rapporté les textes, maintenant on va parler de la raison. Hein? Comme on a dit, notre aqida est toujours basée, l'islam il n'a jamais peur des idées, il n'a jamais peur des questions, il peut confronter, c'est une religion de clémence, de rahma, de science, de savoir et de connaissance, elle n'a jamais peur de la confrontation des idées. C'est le faible qui va utiliser, quand il n'a pas, il est faible d'arguments, et il va utiliser maintenant, voilà, c'est-à-dire on est condamné d'être défini par les autres, c'est-à-dire au lieu de ramener un spécialiste musulman pour parler des musulmans dans les médias, etc., on va ramener un spécialiste, un politologue, hein, un sociologue, un anthropologue. Pourquoi vous ne ramenez pas un spécialiste musulman? Il va vous expliquer. C'est-à-dire on est condamné d'être défini par les... C'est-à-dire pour parler du judaïsme, c'est normal de ramener un rabbin. Pour parler du christianisme, c'est normal de ramener un prêtre. Peut-être bien plus, un spécialiste de l'évêque, de l'archevêché de Paris, etc. Mais les musulmans, les pauvres, quand on voit... Ou bien on ramène un musulman, premièrement, qui ne parle pas français, Et on va les interviewer à la sortie des mosquées. Déjà, il est mal habillé. La caméra, elle va se rapprocher pour qu'on le montre comme un sauvage. Tout ça, l'image, elle est forte aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, c'est pour cela, notre rôle, Inch'Allah, on sait très bien, notre rôle, c'est d'expliquer aujourd'hui, que ce soit aux musulmans ou aux autres qui ne sont pas musulmans, que cette religion, c'est une religion de clémence, c'est une religion de savoir, c'est une religion de connaissance, c'est une religion d'amour, etc. Et elle n'a jamais peur des idées, elle a confronté les plus grandes philosophies existantes de l'époque, à savoir la philosophie grecque et la philosophie romaine, qui sont quand même des philosophies très importantes et qui ont ramené beaucoup de choses importantes à l'humanité, et les philosophes musulmans, ou bien les spécialistes de Tawhid, etc., les ont confrontés, et comme on dit, ne serait-ce l'imam Abu Hamd al-Ghazali, qui a donné quand même un coup fatal à la philosophie qui était maître de toutes les sciences, et depuis l'imam al-Ghazali, elle ne s'est pas mise sur pied. La philosophie, elle n'est plus maître de tout. Ah bon, c'était dans son livre, Tahafut al-Falasifa. Bien qu'on a essayé avec Kant, Hegel, etc., on a essayé de la remettre un peu sur pied, mais elle est restée quand même, on va dire, à genoux. Donc, Burhan al-Tamanu, Burhan al-Tawarud. C'est-à-dire qu'il va nous dire, écoutez, pourquoi vous nous dites qu'il y a un seul Dieu? Il peut y avoir deux dieux? Trois? Quatre? Quoi? Pourquoi un? Nous, par point de vue, donc on a récité les versets, c'est impossible, point de vue, nos textes, maintenant on va utiliser la raison. D'accord? Il y a deux théories, les musulmans, ils ont dit, soit ces dieux-là sont d'accord, ils vont dire, écoutez, on va donner l'exemple de deux dieux, hein, et vous pouvez extrapoler ça sur 3, 4, 5, 10, etc. Soit ces deux dieux, ils vont dire, on va partager la fonction de ce monde. Hein? Soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. D'accord, il ne peut pas y avoir une troisième possibilité. Soit deux dieux qui veulent créer ce monde. Soit ils sont d'accord, soit ils ne sont pas d'accord. Dans la première possibilité, ils sont d'accord. On va dire Burhan al-Tawarud. Je ne sais pas comment on traduit ça. Je n'ai pas trouvé dans le... Comme les livres qui sont traduits en français, c'est des livres, malheureusement, en majorité commerciales, on va dire. Hein? Ouais. Al-Tawarud, Burhan al-Tawarud. Donc Burhan al-Tawarud. Burhan al-Tawarud.
La preuve par...
Burhan al-Tawarud, dis-moi, on va faire que ça.
Explique, on va le
faire. C'est-à-dire par... Non, c'est une argumentation, Burhan al-Tawarud, c'est-à-dire c'est les deux dieux, ils se mettent d'accord pour créer le monde. On va dire... Quel mot qu'on peut dire, hein?
Concertation.
Concertation.
Concordance.
Concordance, ou bien ils sont d'accord, comme
c'est
vous voulez.
L'argumentation de la concordance.
Hein? Concordance, on va dire. Concordance, parce que la concordance, tu sais, c'est une... La concordance. Concordat. Encore.
Danse. D-A-N-C-E. Et l'autre, c'est discordance.
Voilà, concordance. C'est-à-dire, ils sont d'accord pour créer... Je peux fermer la porte? D'accord. C'est-à-dire ils sont d'accord de Dieu, et ainsi de suite, 3, 4, 5, 10, pour créer cet univers. Alors, la question importante, c'est que dans la définition de ce Dieu, on s'est mis d'accord qu'il a tous les pouvoirs. D'accord? Dans la définition, avant de débattre avec ces personnes, on a dit, le Dieu, c'est celui qui a tous les pouvoirs, le Tout-Puissant, et par excellence, il a le pouvoir de faire tout. Alors, quand on dit Burhan al-Tawarud, c'est-à-dire ils sont d'accord de créer ce monde-là, c'est une faiblesse chez eux. C'est-à-dire c'est une faiblesse parce que un, il va faire quelque chose que l'autre ne va pas faire. Et nous, on s'est dit par définition que ce Dieu-là, qui est quelqu'un de... Il n'y a pas plus puissant que lui. C'est-à-dire s'il ne crée pas... C'est l'autre qui crée la lumière et l'autre qui crée, comme on le voit chez les bouddhistes, etc., dans la philosophie indienne et chinoise, etc. Si quelqu'un crée la lumière et l'autre crée l'obscurité, le yong, c'est une faiblesse pour ce dieu-là, parce qu'il est pauvre, il n'a pas créé la lumière, l'autre il a créé. Celui qui a créé l'obscurité, il est faible parce qu'il n'a pas créé la lumière, et ainsi de suite. C'est-à-dire, le fait de partager, c'est un signe de faiblesse. Je parle des humains, je parle de celui qui est le tout-puissant. Normalement, hein, même un roi, je dis, oh, comment tu vas partager toi le pouvoir? Déjà, un roi, alors que dire du créateur? D'accord, hein, que dire du créateur qui est le tout-puissant? Donc cette argumentation ne tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'un Dieu, un Ilah, hein, Allah, un créateur, devrait avoir le monopole de toute sa créature. C'est-à-dire, il ne peut pas admettre ou accepter, c'est-à-dire la question déjà, faire attention, déjà la question à la base, elle est piégée, c'est une question fausse, d'accord? C'est-à-dire le fait que ce Dieu accepte, c'est-à-dire, ah bon, j'accepte, c'est-à-dire c'est une faiblesse. Pourquoi? C'est un créateur. Un créateur ne devrait pas avoir une concession, d'accord? Donc ça, c'est déjà, elle n'est pas, cette argumentation n'est pas bonne. Donc, Burhan Tawarut, s'ils sont d'accord, c'est faux. Ensuite, vous avez la deuxième théorie, Burhan Tamanu'. La discordance, d'accord. C'est-à-dire, dans le premier cas, ils sont d'accord. Et on a vu, s'ils sont d'accord, c'est un signe de faiblesse. Et là, dans le deuxième cas, ils ne sont pas d'accord. Il y a deux dieux, ou trois, ou quatre, ou dix. Mais chacun dit, moi, je vais créer l'eau. L'autre, il dit, non, c'est moi qui vais créer l'eau. Parce que l'eau, c'est source de la vie, etc. Ils ne sont pas d'accord. D'accord. Et comment ils ne sont pas d'accord? Il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, puisque cet univers, on le voit, il y a l'eau, il y a le soleil, il y a un créateur qui a créé cela, on voit l'univers. Donc si un, il a pris le dessus sur l'autre, donc l'autre, le faible, c'est pas un dieu. D'accord? Puisqu'il a été vaincu. Donc pour prouver que ces deux théories ne tiennent pas la route, qu'il ne peut y avoir 2, 3, 4, 5, 10 dieux, que ce soit qui sont d'accord ou qui sont pas d'accord, il ne peut y avoir que un seul dieu puissant, tout puissant, qui n'a besoin d'aucune chose et que toute chose a besoin de lui. Ça, c'est l'argumentation de la raison. Bien que, on a cité des versets, vous trouvez depuis Sourate al-Fatiha jusqu'à Sourate an-Nas, plein de versets. Vous allez trouver aussi plein de hadiths du prophète, alayhi salatu wa azka at-taslim.
Ça, c'est valable pour le polythéisme, pour les athées.
Pour les athées, c'est l'argumentation qu'on a parlé, l'attribut, le premier attribut de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est le premier attribut qu'on a traité, c'était l'existence. On a donné les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a donné beaucoup de preuves. Un petit argument banal, tu rentres dans une librairie, bibliothèque, tu vois les livres d'économie, d'histoire, théologie, ils sont bien organisés, etc. Une petite librairie. Tu rentres, tu dis, ah, ben, ils sont bien arrangés ces livres. C'est-à-dire, c'est une organisation bien arrangée. Qu'est-ce qui a fait ça? J'aimerais savoir, avoir la connaissance de cette personne. Et on te dit, non, ces livres se sont arrangés tout seuls. Le livre d'économie, il est venu, hop, ils sont mis cela. Personne ne va croire à ça. Alors comment ces gens athées croient, ne peuvent pas croire à une petite librairie, petite soit-elle, mais il peut admettre, c'est-à-dire cette organisation millimétrique, univers, il peut croire qu'elle est venue comme ça. L'atome, comment les électrons tournent autour de l'atome, vous allez, il y a mille et une théories que c'est pas possible, c'est-à-dire comme on a dit, Fandor ila nafsika. Regarde dans toi-même comment tu es un univers extraordinaire, comment l'œil travaille, comment le sang circule, comment l'oxygène rentre, etc. etc., etc. Tout ça, c'est une organisation minutieusement faite par quelqu'un de parfait. Parce que c'est du parfait, c'est du perfectionnisme extraordinaire. Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Seuls les savants, normalement, devraient craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils découvrent, ils disent, oh, malheureusement aujourd'hui, les savants qui travaillent dans le laboratoire, par essence, ils disent, oh voilà, c'est la nature qui a fait ça, mais on ne dit jamais, c'est la nature qui l'a fait. La nature, bon, cette nature qui l'a fait, on nous parle de la théorie du Big Bang, bon, c'est un gaz qui est venu. Où est le gaz? Jamais ils disent où le gaz il est venu, d'où? Parce qu'il faut toujours, d'où il faut poser. À moins qu'ils nous disent, comme a dit Einstein, moi je reconnais, quand il a étudié la relativité, etc., entre les différentes étoiles, etc., il a dit, je reconnais qu'il y a une main invisible, il y a une puissance qui gère ce monde-là. Mais il n'a pas dit Dieu ou Allah. D'accord? Mais il a dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui tient. C'est pas possible que ces choses-là tiennent comme ça, parce que tellement la Terre, comment elle tourne autour du Soleil, c'est-à-dire tellement c'est fait d'une façon extraordinaire que rien ne bouge dans ce monde-là. D'une mèche, si la Terre bouge d'une mèche de ce que lui a été, sa trajectoire sera vraiment des catastrophes extraordinaires, et tous les spécialistes le disent. Ça, pour les gens athées, c'est plus facile. Hein. Pour les athées, c'est plus facile. D'ailleurs, on en a parlé même pour les athées, en vérité, on a parlé de Imam Abu Hanifa, on a donné l'exemple, qu'en vérité, en leur vérité, ils croient à Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé de ce que les savants appellent al-fitra, la nature première. la nature première, al-fitra, dans leur profond, ils croient à Allah subhanahu wa ta'ala, laisse-le comme ça perdu dans un bateau où il y a rien, hein, il va perdre tout, c'est-à-dire tout est perdu, il n'y a ni contact avec la terre, ni gain, et vous avez des vagues qui font 30-40 mètres, là, quand il aura tout perdu, il va, hein, comme Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis votre seigneur. Et voilà que c'est-à-dire les fleuves, c'est moi qui ai le pouvoir, etc. etc. Mais quand il a coulé, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a coulé, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il a commencé à dire, oh, j'ai cru en Allah. Allah, je lui dis, ah, c'est maintenant que tu crois. Là, c'est-à-dire quand classe, tout ce qu'il avait comme pouvoir, il est parti. Il a été tout, parce qu'il voyait son armée, il voyait ses châteaux, il a dit, comment ça, moi, ça va pas. C'est-à-dire, même lui, il a commencé, même il sait qu'il ment, mais comme les gens, tout le monde le suivait, il s'est dit, ah, peut-être c'est vrai que je suis un dieu, mais quand même. Donc, il avait ce pouvoir-là, il s'est dit, je suis un dieu. Mais quand Allah Azza wa Jal, il l'a pris, c'est-à-dire il a sombré avec tout ce qu'il avait comme armée, comme pouvoir, et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'on va le sortir pour qu'il restera un signe à l'humanité, il est sorti. Pharaon, il est sorti, comme on appelle aujourd'hui Ramsès II, etc. Vous allez le voir, hein, Allah Azza wa Jal a dit, on va sortir ton corps. Regardez, ça s'est dit, ça fait 15 siècles, ça existe, ça c'est déjà un miracle. Allah Azza wa Jal dit, on va te sortir pour que tu sois un signe pour les gens, un signe pour l'humanité. Allah Azza wa Jal, il l'a sorti. Et maintenant, les gens, ils viennent vers la mobile, hein, ils voient, c'est ça, Pharaon. C'est petit, comme c'est un corps, un cadavre, etc., etc. Donc, pour qu'il soit un signe pour l'humanité et pour les autres. Naam. Humahanto, c'est-à-dire quand il est sorti, ils l'ont, c'est les gens de sa tribu, etc., ils l'ont mis en momie. Ils l'ont mis en momie parce que ils ont cette la façon d'enterrer. Ils l'essayent. Pour eux, c'est une. Il est vivant. C'est-à-dire qu'il quand ils le gardent en momie, pour eux, il est gardé. Il n'est pas dans ce monde, mais il est vivant. Il est dans sa. Et chacun, c'est-à-dire dans sa tombe, ils mettent quelqu'un avec sa femme ou deux trois de ses proches. Ils lui mettent un tombeau, etc., un sarcophage, etc. Ils le gardent. D'accord. Mais Allah Azzawajal l'a fait sortir exprès. Ils l'ont gardé. Ils l'ont mis cette momie jusqu'à ce que les spécialistes sont venus maintenant, ils ont dit, bon, je crois que c'était Napoléon, quand ils sont allés en Égypte, ils ont dit, bah, écoutez, ça c'est quand même, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire, on voit. Hein? Et eux, ils appliquent ce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, on va te sortir pour que tu sois sans le savoir. D'accord. Taïb. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Taïb. Concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les actes d'Allah Azza wa Jalla, il ne peut y avoir une association, on a dit dans son essence, Vatullah, Kulu ma khatara bi balika, fallahu bi khilafi li dhalika. Tout ce que la pensée humaine peut imaginer comment Allah Azza wa Jalla l'a fait, Allah Azza, cette pensée sera limitée. Elle ne peut jamais arriver à savoir. Déjà, Allah Azza wa Jalla ne nous parle jamais comment il est dans le Coran. Par contre, il nous parle de ses attributs. Enfin, la Yandurun, ne voit-il, il nous parle de sa puissance, il nous parle de sa volonté, il nous parle de sa parole. Donc, il nous renvoie à ses attributs pour découvrir qu'il est tout puissant, etc. Donc, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, il dit, le fait de ne pas arriver à concevoir comment Allah Azza wa Jalla est fait, ça c'est un pur tawhid. Ne cherchez pas, parce que Allah Azza wa Jalla nous a dit, de toute façon, vous n'allez pas le trouver. D'accord. Par contre, il faut chercher ses attributs, il faut les découvrir, il faut aller dans cet univers pour découvrir sa création, qui est un signe de sa puissance, de sa volonté, de sa science, pour savoir qu'il est le Tout-Puissant. Et pour ses actes, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne partage pas, c'est-à-dire, il est l'unique dans ses actes, il ne partage pas ses actes avec les autres, il ne partage jamais ses actes avec les autres, il ne peut y avoir quelqu'un qui va nous dire, moi, j'ai la science, ou bien je peux créer, comme on dit aujourd'hui, il a créé, ou bien non, la personne humaine ne fait que transformer la matière. Il va dire, j'ai créé une voiture, tu n'as pas créé la voiture, tu as transformé la matière, tu as pris le fer, etc., etc., le feu, et tu n'as fait que transformer, c'est-à-dire la créature ne peut pas ramener du néant vers l'existant. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut ramener quelque chose, c'est-à-dire il crée la chose, c'est pas qu'il peut ramener, il crée la chose du néant, hein, vers l'existant. Et vice versa, Allah Azzawajal seul qui va anéantir la chose. Parce que nous, on a beau anéantir la chose, mais elle ne part pas. Elle devient des hybrides, elle devient un gaz, elle est toujours là. On ne peut pas la rendre néant, rien. C'est-à-dire, elle existe, elle est toujours là. Donc les deux, la création et la négation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, seul Allah Azzawajal a le pouvoir. Hein, c'est lui qui le créateur, c'est lui qui a le pouvoir de faire cela. Donc l'homme ne fait qu'en transformer les choses. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, fa'alu lima yurid, c'est-à-dire lui seul fait ce qu'il veut. Je pense que pour le. On va se limiter à cela pour ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit que cet attribut, il est fondamentalement important chez nous en tant que musulmans. Tous les prophètes, ils sont venus pour ancrer cette croyance dans le cœur de l'humanité, des musulmans. On a les chrétiens qui croient que déjà ils sont pas tous d'accord sur cette question de la Trinité. Ils croient que 1 plus 1 égale 1. Or, 1 plus 1 égale 3. D'accord, c'est-à-dire Marie, Jésus, le Saint-Esprit, c'est trois personnages complètement différents qu'on peut trouver dans les textes, hein, qui sont Dieu le Père, Dieu le Fils, quand même il s'agit de deux dieux, hein, plus le Dieu, plus Saint-Esprit, plus Marie, etc. Pour nous musulmans, il n'en est pas question qu'il y ait 2, 3, 4 ou 10 dieux, il y a un seul Dieu, l'unique, le Tout-Puissant, qui a tout créé et n'a besoin de quiconque, il n'a pas besoin ni de s'asseoir, ni de dormir, ni de boire, ni de manger. Le boire, le manger, tout ça, c'est des signes de faiblesse qui sont collés à la créature et non pas au créateur. Le tawhid. Tawhid ou le monothéisme. Tawhid. Moi, j'ai toujours peur des traductions. Je me méfie des traductions. C'est pour cela, c'est-à-dire la compréhension, la compréhension, parce que chaque parole dans sa langue originale, elle porte en elle une idée et une philosophie. C'est très important de le savoir. Chaque parole en elle, dans sa langue originale, elle porte une signification idéologique et philosophique. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand on dit, je sais que ce que dit frère Mohamed, quand on dit monothéisme, c'est-à-dire même les judaïques.
Vous discutez avec les chrétiens.
Voilà, c'est des monothéistes.
Dans la Trinité, vous dites qu'on est des monothéistes. Les juifs, c'est pareil.
Oui, dans un sens.
Nous, si on regarde au sens propre de l'unicité d'Allah, ce ne sont pas des monothéistes. Quelqu'un
oui.
Dit, il y a les trois chutes.
Oui. C'est-à-dire, on peut. C'est... Oui. Oui, on peut, c'est Mohamed, on peut accepter ça dans le contexte, d'ailleurs repris par le Coran Karim, c'est-à-dire c'est des gens, on va dire, qui croient à les divinités d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, c'est pour ça qu'il est autorisé de se marier dans le fer, on va dire, avec un chrétien et un juif, pas avec quelqu'un qui adore les statues ou bien le soleil, etc., etc. Mais tout en les considérant comme kuffar, c'est-à-dire c'est des gens qui ne croient pas à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est dit dans le Coran. Parce que...
Non. Pour ça, il ne faut pas dire que c'est des gens, quand on parle des chrétiens et des juifs, il ne faut pas dire que c'est des gens monothéistes. Le mieux, c'est de dire que c'est des gens du livre, comme ça a été traduit.
Non.
Il ne faut pas dire aussi de christianisme ou de judaïsme, c'est de religion monothéiste. Parce qu'il y a une seule religion, il n'y a pas de religion.
Tout dépend de ce qu'on veut donner comme définition au mot monothéiste. Mmh. C'est pour cela qu'il est préférable, quand on parle de tawhid, tout simplement. Ils n'ont qu'à introduire ce mot-là dans le dictionnaire, puis c'est tout. Voilà, l'unicité d'Allah, comme c'est le cas, hein, maintenant, il y a beaucoup de mots arabes qui sont dans le dictionnaire, le Robert et les autres. Allah, tu dois trouver, c'est Dieu des Arabes, musulmans, machin, etc. Donc aussi, le mot tawhid, comme ça, le terme, il porte en lui, on va dire, c'est un sens qui reporte à la croyance et à la philosophie, etc., etc. Même vous trouvez ça chez les marxistes par exemple, ou bien les existentialistes, ou bien tous les courants d'athéisme, ils ne sont pas contents qu'on déforme leur terme, terminologie, les classes sociales, ils ont une terminologie propre à eux qui veut définir quelque chose et qui ne sont pas repris par les autres. Ça, c'est juste dans la pensée humaine. Alors nous, quand même, subhanallah, par excellence, nous devrions être fiers et honnêtes vis-à-vis de nos textes, et vis-à-vis de ce que nous savons en nous ont avancé, nous en rapporter et utiliser cette terminologie, même avec un chrétien, un juif ou un athée, et lui dire, c'est quoi, ce que vous voulez dire par tawhid? Vous avez dit tawhid. On va lui expliquer. Voilà, tawhid, c'est cela. D'accord. Je vais passer à l'autre attribut, puisque j'aurai 5-10 minutes de temps. La science. Voilà. Septièmement, c'est ça?
Septièmement, l'omniscience.
Bon. L'omniscience ou bien la science, hein? C'est facile. C'est la
science méchante. D'Allah ou l'omniscience?
Ah, voilà, la science. La science d'Allah. Ilmullah. Al-ilm. Allah, exalté soit-il, a créé cet univers sans modèle précédent. C'est-à-dire, toute notre science, nous, on l'acquiert. C'est-à-dire, on est ignorant, on va apprendre à compter, à écrire. Chaque créature, chaque être humain, « Wa'allama Adam al-asma'a kullaha » D'ailleurs, le premier être humain, Sayyiduna Adam, Allah Azza wa Jal, lui a appris, « Allama Adam », c'est-à-dire, il lui a appris non seulement, quand on dit les noms, il lui a appris la science. Hein, « Allama Adam », il lui a appris la science de beaucoup de choses que les anges ne connaissaient pas. Donc, dès le départ, « Iqra », le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « lit ». Donc, la personne, elle est censée, pour apprendre, d'aller vers la science. Hein, que ce soit dans le sens religieux, que ce soit dans le sens humain, que ce soit dans la médecine, mathématiques, astronomie, physique, etc. Sauf pour Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin d'aller apprendre. Toute cette science, elle lui appartient à lui. « Lam yasbaqha » Jahlon, c'est-à-dire, elle n'a pas été précédée antérieurement par une ignorance. D'accord? Allah Azza wa Jal connaît et sait toute chose, comment elle est, ce qu'elle va devenir, et comment elle était, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu, c'est un ilah. Il faut faire très attention à ne pas faire une certaine analogie sur nous-mêmes par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle... Voilà, quand on parle d'Allah, on parle d'Allah Azza wa Jalla, ses attributs. Et quand on parle d'un être humain, on parle d'un être humain. On a beaucoup de versets, je peux citer un de ces de versets. قال تعالى يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui s'enlève. Il est le compatissant, l'absoluteur. Par essence, surat Saba, verset 2. Donc, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Il sait même ce que nous pensons. Il est plus proche de nous, de nous-mêmes, hein, par sa science, évidemment. Il sait ce que nous, on pense. Les anges, vous savez, ils écrivent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Mais il y a beaucoup de choses que les anges, le jugement dernier, ils vont peser. Allah Azza wa Jal va leur dire, donnez ce que vous avez écrit des actes de ce personnage. Il y a des moments où les anges, ils sont stupéfiés. Qu'ils voient que beaucoup de choses que cette personne a fait dans la vie d'ici-bas qui étaient très mauvaises, mais le jugement dernier, dans la balance, cette personne sera une personne extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle a des choses dans le cœur que les anges ne peuvent pas voir et que seul Allah subhanahu wa ta'ala voit et Allah azza wa jalla n'oubliera pas de mettre dans la balance ces actes qui sont les actes du cœur qui sont très importants, hein? Et comme il y a des actes du cœur qui sont très mauvais, il y a des actes qui sont très bons comme parler des gens, s'aimer la zizanie, la méchanceté dans le cœur, hein, tu vois, regarde, tu parles avec ton cœur, dis regarde ceci, cela. Par contre, il y a des bonnes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons un jour, il leur a dit, vous allez voir un des Sahaba, il va rentrer, il sera un parmi les gens qui vont rentrer au paradis. Il est venu, un compagnon normal. C'est pas un grand des compagnons, c'est Omar ibn Khattab ou Abu Qasdir. Et vous voyez, les Sahaba, ils sont curieux, ils se disent, subhanallah, c'est Sahabi, il est Sahabi normal, il fait sa prière, il est marié, il est normal. C'est Omar ibn Khattab, il a dit, il faut que je suive ce personnage. Qu'est-ce qu'il fait? Naam? Abdullah ibn Omar, t'haqqaq. Naam. Un des compagnons, bon, c'est le frère d'Issa, Abdullah ibn Omar. Donc, il a créé une histoire pour aller passer la nuit chez un sahabi. Il l'a invité pour rester 3 nuits, pour lui, par curiosité. Il était curieux. Qu'est-ce qu'il fait? Le professeur Hassan a dit, ce personnage, il fait quelque chose quand même que nous, on ne fait pas. Il est allé chez lui, normal, il fait sa prière de Aïcha, il va dormir, il n'y a aucun problème. Le lendemain, il va travailler, etc. Troisième jour, il lui a dit, écoute, je suis venu exprès te voir. Moi, le professeur Asselin nous a dit que une personne va rentrer qui sera parmi les gens du paradis. Et je n'ai trouvé, tu fais aucune chose que nous, on ne fait pas. Mais est-ce que tu fais par cachet? Il m'a dit, moi, avant de dormir, une seule chose. Je nettoie mon cœur, je pardonne à tout le monde. Je ne laisse rien, aucune graine vis-à-vis d'une personne. C'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, c'est-à-dire que tu n'as aucun compte à rendre aux humains. C'est, attends, je vais faire cela parce que l'autre, il me voit. Attends. Non, tous tes actes, c'est-à-dire tous tes actes, tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, c'est pas tu vas écraser les gens. Non, c'est-à-dire voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire penser à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire faire les choses, que ce soit devant les gens, que ce soit quand on est seul, que ce soit devant les gens qu'on ne connaît pas. C'est ça la vraie croyance, c'est ça la spiritualité dont parlait le hadith. Donc ce sahabi lui a dit, moi avant de dormir, la seule chose, quand je fais mon wudu avant de dormir, je fais ma salat, je fais ma nafila, et je nettoie mon corps, je dors. Il lui a dit, c'est ça, le prophète sallam, il a parlé de ça. Donc pour vous dire la valeur aussi des choses qui sont dans le cœur et que seul Allah subhanahu wa ta'ala les connaît, qui vont peser très très lourd, a'malul qalb. A'malul jawarih wa a'malul qalb. C'est-à-dire, il y a des péchés du cœur, il y a des péchés des actes. Et les savants, ils ont dit, attention, les péchés des cœurs, ils peuvent être plus graves que les péchés des actes. D'accord ? Ala wa inna fil jasadi mudra. Idha saluhat saluha al jasadu kullu. Wa idha fasadat fasad al jasadu kullu. Ala wa hiya al qalb. Il y a une chair en l'être humain. Si elle est bonne, tout le corps il est bien. Si elle n'est pas bonne, tout le corps n'est pas bon. Ala wa hiya, c'est quoi ? C'est al qalb. Et al qalb, c'est pas la viande. Hein? C'est pas la viande, c'est pas la chair. C'est symbolique. Hein? C'est sens métaphorique, figuré. Hein? C'est ce qu'on a dans le cœur, on dit, parce que même tu ramènes un musulman, on le voit, lui, on veut un cœur, il crève de cœur d'un kafir, il reste musulman, il ne va pas devenir un kafir, d'accord ? Naam. Naam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Ya'lamu ma fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'aluna wa Allahu alimu bi dhati sudur. Il sait ce qui est dans les cieux, comme il sait ce qui est sur la terre, il connaît ce que celle des hommes aussi bien que ce qu'il montre. Dieu est bien informé de ce qui est plus profond de vos cœurs. Il dit aussi dans un autre verset, wa asirru qawlakum wa awjharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu ma khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Que vous cachiez ou divulguez vos propos, Dieu connaît. Moi j'aime pas trop le mot Dieu, je sais pas si les traducteurs là ils sont un peu, il faut, Allah connaît si bien le fond de vos cœurs. Quoi ignorait-il ce que lui-même a créé, lui le subtil, le si bien informé. C'est-à-dire, il est plus proche de nous-mêmes, de nos pensées. D'accord. C'est pour ça qu'il faut, même si Shaitan souffle quelque chose, il faut le remettre à sa place, il faut corriger. Hein, parce qu'il va insister, hein, il va insister de faire la bêtise, Shaitan. Il faut toujours repousser. Et si on n'est pas armé de dhikr Allah, de le Coran, de l'amour du prophète, de la pratique de l'islam, on ne peut pas le refuser parce qu'il il va venir de cette porte, il va venir à droite, comme dit le hadith, il va venir à droite, il va venir à gauche, il va miroiter, il va changer mille et une façons pour lui juste que tu arrives à faire le péché. Allah Azza wa Jal dans un verset, وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ مِنْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ قَلِ ذَرَّةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Je vais vous lire en français. En quelques états que vous soyez, quelques passages du Coran que vous lisiez, quelques œuvres que vous puissiez entreprendre, nous en sommes toujours les témoins. À l'instant même, rien n'échappe à ton Seigneur, que ce soit le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni plus ni petit ni plus grand que cela, sans qu'il ne soit déjà préécrit dans un livre probant. Donc, tout cela pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa science, il sait tout ce qui va se passer. Et c'est ça quand on va traiter, Inch'Allah, le qada ou le qadar, la prédestination, et comment on appelle ça, hein, le destin, la prédestination, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il n'a pas forcé la personne à faire, mais il sait d'avance. Moi, je sais que demain, tu vas te réveiller à 8h, je le sais. Que demain, tu vas te réveiller à 8h, tu vas partir à l'école. C'est pas moi qui t'a forcé, je le sais. D'accord. Mais Allah Azza wa Jalla connaît d'avance tous nos actes, ce que nous allons faire. Il a écrit dans la table gardée, le Mahfoud, ce que nous allons. Il n'a forcé aucune personne à le faire. C'est ça, il y a beaucoup qui ont mal compris Al-Qadha ou Al-Qadr. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui que revient toute la science de l'humanité, que ce soit une science humaine, que ce soit une science exacte, que ce soit une science religieuse, philosophique, etc. C'est lui qui a créé tout cela. L'homme ne fait que acquérir, hein, bima kasabat, c'est-à-dire que l'homme acquiert cette science, acquiert l'acte, acquiert le savoir, et il le découvre, il le trouve, c'est pas lui qui le met en chantier du néant, c'est pas lui qui le crée. D'accord ? Donc voilà, Inch'Allah, pour aujourd'hui, j'étais bref. S'il y a une question qui concerne le cours d'aujourd'hui, je suis à votre disposition. Sinon, on terminera par un doigt. Si une personne elle avait l'intention de faire un péché, si la personne elle avait l'intention de faire un péché, et elle ne l'a pas fait. Je donne déjà l'exemple de cela. La personne avait l'intention de faire un péché, elle ne l'a pas fait. Si elle ne l'a pas fait, le fait qu'elle ne l'a pas fait, elle la pensée d'y faire, elle ne l'a pas fait, Allah Azza wa Jal va lui compter une bonne action. Et si elle avait l'intention de faire une bonne chose, ensuite elle ne l'a pas fait pour une raison ou une autre, Allah Azza wa Jal va lui compter aussi une bonne action. Maintenant, si la personne, elle a fait dans son cœur des rancunes ou quelque chose comme ça, des choses sur une personne, et cette chose, elle est rentrée, elle est ancrée, elle est devenue quelque chose d'évident. C'est-à-dire, elle est dans son cœur, elle porte cette idée sur cette personne, ou bien tel acte. Ça, c'est un péché. C'est considéré comme un péché. D'accord ? Al-hasad, on ne le voit pas. Imam al-Ghazali, dans son Ihya, il dit, il y a 566 maladies des cœurs. 566 maladies des cœurs. Qu'est-ce que je crois le hasad barramia? La jalousie. Il dit la jalousie, mais ce n'est pas le mot. Hein. Ce n'est pas la jalousie. Ils traduisent la jalousie, mais ce n'est pas la jalousie. C'est-à-dire, le hasad tamanni zawal al-ni'ma. C'est-à-dire, quelqu'un qui, mashallah, il a réussi, moi dans mon cœur, c'est-à-dire, je ne suis pas content. Tu vois? J'espère qu'il perd. Dans mon cœur, ça s'appelle le hasad. Ce n'est pas la jalousie. Ça s'appelle le hasad. Ça, c'est l'envie. Voilà. Mauvaise envie. Un mauvais envie. Ouais, mauvaise envie, etc. Et vous avez le borv, kadhalik, le kibr. Quelqu'un qui se croit qu'il est l'orgueil, mais le fait qu'il dans son cœur, il a cette taïwa. Ça c'est des péchés graves, c'est des maladies graves. Et c'est tout cela, le professeur Hassan, quand il parle de l'ihsan, la troisième partie spirituelle, il parle de cette éducation. C'est-à-dire que le musulman ne doit pas se limiter aux actes extérieurs, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a quelque chose d'intérieur qui est très important. Non. C'est-à-dire l'être humain ne fait que découvrir, ne fait que trouver, il ne crée rien. Déjà, le fait que lui, il ne s'est pas créé lui-même, hein, d'ailleurs il est venu d'un père et d'une maman, il n'a même pas décidé de l'heure ni de la minute de son avenue, ni comment il va être, ni comment il va se nommer, alors que dire des choses qu'il va le trouver. Anakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.